Bonjour à tous.
Je tiens à donner mon vote.
Je proteste. Le président ne vote pas.
Le président peut voter si tel est son choix.
Il est tout à fait inhabituel,
ceci
monsieur.
Ceci n'est pas habituel, monsieur Pendleton. C'est l'histoire.
Bienvenue sur les nouveaux chemins, placés cette semaine, comme les France Culture, sous les auspices du 69e Festival de Cannes. Et pour notre part, c'est dans le monde imaginaire de Steven Spielberg que nous plongeons. De ce monde fait de métaphores, de mythes et de rêves, de ces contes qui disent ce qui est vrai. Après donc lundi et hier, l'aventure qui nous fait contempler ce monde et l'enfance qui nous y mène, et avant de découvrir les êtres monstrueux dont ils se peuplent demain, eh bien écoutons aujourd'hui comment ils se racontent à travers ces histoires. Dans l'histoire. Et toute l'équipe des Nouveaux Chemins fait et raconte son histoire. Colomba Grossi, Marianne Chassor, David Pargamin, Antoine Ravon, Lucie Tardy, Marie Aubert, sans oublier bien sûr Adèle Vendrette qui a accouché d'un petit garçon et qui, à peine né, nous écoute déjà. Avec à la lecture des textes cette semaine, Vincent Schmitt, à la réalisation Peyré Legras et Nicolas Berger, et à la prise de son aujourd'hui, Jacques Hézubert. Dans la crise de la culture, Hannah Arendt pense une histoire des possibles et des actions. Elle nous dit ainsi que « seul le conditionnement total, c'est-à-dire l'abolition totale de l'action, peut jamais espérer en finir avec l'imprévisibilité ». Contingences, accidents, surprises, inattendues, voilà de quoi serait faite l'histoire. Ryan, Lincoln, Schindler, voilà de quoi d'ailleurs elle est faite selon Steven Spielberg. Ryan, Lincoln, Schindler, trois noms historiques ou anonymes dont le cinéaste a raconté l'histoire. Trois histoires individuelles qui ont croisé ce qu'on appelle la grande histoire. Mais dès lors que l'on met en scène ces histoires, dès qu'on les fait entrer dans le cadre, qu'on les cerne dans un champ et qu'on en fait des vies héroïques, ne raconte-t-on pas aussi une grande histoire, belle et nécessaire? Ne tombe-t-on pas dans cette illusion qui nous fait croire que tout devait se passer ainsi? Entre l'imprévisibilité des parcours individuels et cette illusion rétrospective d'une nécessité de l'histoire, comment alors montrer et raconter ces vies, tout autant matière qu'esprit de notre temps? Ryan, Lincoln, Schindler, mais aussi le John Anderton de Minority Report, ces héros de Spielberg vont nous y aider, ainsi que Christophe Bouton que j'ai le plaisir de recevoir, Christophe Bouton, professeur de philosophie à l'université Bordeaux-Montaigne et auteur de Faire l'Histoire. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour.
L'histoire appartient avant tout à l'actif et au puissant, à celui qui participe à une grande lutte, et qui, ayant besoin de maîtres, d'exemples, de consolateurs, ne saurait les trouver parmi ses compagnons et dans le présent. Sur les lieux qui l'incitent à suivre un exemple ou à faire mieux, il ne souhaite pas de rencontrer le désœuvré qui, avide de distractions ou de sensations, se promène là comme parmi les trésors amassés d'une galerie de tableaux. L'homme actif, mêlé aux désœuvrés faibles et sans espoir, parmi les compagnons occupés seulement en apparence, mais qui ne font que s'agiter et se débattre, pour qu'ils ne se prennent pas à désespérer et à ressentir du dégoût, a besoin de regarder derrière lui. Il interrompt sa course vers le but pour reprendre son souffle. Il recule devant la résignation, et l'histoire lui est un remède contre la résignation. Le plus souvent, aucune récompense ne l'attend, si ce n'est la gloire, c'est-à-dire la perspective d'une place d'honneur au temple de l'histoire, où il pourra être lui-même, pour ceux qui viendront plus tard, maître, consolateur et avertisseur. Que les grands moments de la lutte des individus forment une chaîne, que les sommets de l'humanité s'unissent à travers eux, à travers des milliers d'années, que pour moi, ce qui a été de plus élevé dans un de ces moments passés depuis longtemps soit encore vivant, clair et grand, c'est là l'idée fondamentale contenue dans la foi en l'humanité, l'idée qui s'exprime par l'exigence d'une histoire monumentale.
Why do you drink that motor oil?
I watch you. You're never drunk. That's real control.
Un vrai contrôle de soi.
Control is power.
Le contrôle est le pouvoir. Ça, c'est le pouvoir.
Et c'est pour ça qu'ils nous craignent.
Ouais, nous avons ce foutu pouvoir de tuer, c'est pour ça qu'ils nous craignent.
Ils nous craignent parce que nous avons le pouvoir de tuer arbitrairement. Un homme commet un crime, il n'aurait pas dû, nous le faisons tuer, et après ça, nous nous sentons bien. Ou nous le tuons nous-mêmes et nous nous sentons encore mieux. Ce n'est pas le pouvoir, pourtant. C'est la justice. C'est différent du pouvoir. Le pouvoir, c'est lorsqu'on a toutes les raisons de tuer et qu'on ne le fait pas.
Vous croyez que c'est le pouvoir ?
C'est celui qu'avaient les empereurs. Un homme qui a commis un vol est amené devant l'empereur. Il se jette aux pieds du monarque pour implorer sa pitié. Il sait qu'il va mourir. Et l'empereur pardonne cet homme. Ce rebut de l'humanité, il le libère.
Je crois que vous êtes sous.
C'est le pouvoir, Amon. Ça, c'est le pouvoir.
Christophe Bouton, on vient d'entendre deux hommes puissants et actifs, ce sont Oscar Schindler et Amon Göth dans La liste de Schindler, le film de Steven Spielberg qui date de 1993. Ce sont deux hommes puissants et actifs tels que les décrit Nietzsche dans ses considérations inactuelles dont on a entendu un extrait interprété par Vincent Schmitt. C'était notamment la deuxième partie de l'utilité et de l'inconvénient de l'histoire pour la vie. Et chez Spielberg, effectivement, l'histoire est d'abord faite de ces personnalités individuelles qui ont du pouvoir. Est-ce qu'on peut d'abord définir le rapport à l'histoire de Spielberg comme une histoire d'individus ?
Oui, je pense que c'est ce qui est frappant dans les films de Spielberg. Il réintroduit l'individu au cœur de l'histoire avec deux versions. Vous avez le grand homme qui fait l'histoire, c'est le cas notamment de Lincoln, on y reviendra. C'est aussi le cas dans Amistad de John Quincy Adams, qui est lui-même fils de président, qui a été un président, et qui va faire la plaidoirie finale pour sauver les esclaves de la mort devant la Cour suprême. Et il y a l'autre version de l'individu acteur de l'histoire, c'est l'individu qui n'est pas le grand homme, qui est plutôt un individu ordinaire. Alors, je pense que Oscar Schindler entre dans cette catégorie, dans la mesure où au départ dans le film, il n'est pas présenté comme quelqu'un de très brillant, c'est plutôt un profiteur de guerre, qui cherche à faire fortune en utilisant la main-d'œuvre gratuite des Juifs, qui s'installe dans un appartement qui a été spolié aux Juifs. Donc au début, il n'est pas très sympathique. Alors petit à petit, il va changer, d'ailleurs de façon assez mystérieuse. Et finalement, il va essayer de sauver des Juifs le plus possible. Et dans la scène qu'on vient d'entendre, donc il prend en épaisseur, le personnage prend de la force de l'épaisseur, puisque il est dans ce processus de protéger, de commencer à protéger les Juifs, et il essaye de faire changer Amon Göth en lui expliquant qu'il faut qu'il arrête de tuer de manière arbitraire.
Donc Amon Göth, qui est un nazi, qui dirige le camp dans lequel Schindler emploie en fait de la main d'œuvre juive, et effectivement il y a deux personnalités qui s'affrontent mais jamais de manière violente en fait dans le film, c'est-à-dire que ça reste toujours une sorte de tension un peu sourde parce que les intentions de Schindler sont très difficiles en fait à percer, à mettre à jour. Et c'est ça aussi, c'est cette ambiguïté-là que Spielberg met à jour avec ce personnage qui est à la fois un individu qui se sert de l'histoire et qui en même temps lutte contre l'histoire.
Oui, c'est en fond, les deux personnages sont assez ambigus et Schindler ses prix d'amitié pour Isaac Stern, qui est son comptable, hein, qui est un juif qui lui sert de comptable pour son usine. Et Isaac Stern lui reproche à demi-mot son amitié, sa demi-amitié avec Amon Goethe. Et c'est là où Schindler dit, ben non, mais finalement, Amon Goethe, c'est un type sympathique, mais qui se trouve dans une situation de guerre et qui obéit aux ordres. Et Stern lui dit, ben non, c'est pas vrai. C'est un tueur. Hier encore, il a tué 25 détenus pour se venger de la fuite de l'un d'entre eux. Et on voit la scène horrible où Amon Goethe défile dans des rangs avec son revolver et tire dans la tête au hasard de près de 25 détenus. Et donc, l'idée de Schindler dans cette scène, c'est de faire changer Amon Goethe de par l'influence qu'il a sur lui, en lui expliquant que le vrai pouvoir, ce n'est pas de tuer de manière arbitraire, mais c'est de sauver des vies, de les épargner, du moins de les épargner. Et alors, Amon Goethe applique ce principe quelques heures, quelques jours, et après, il rechute, entre guillemets, c'est-à-dire il retombe dans cette attitude de tuer arbitrairement.
Mais alors, que faire de ce pouvoir c'est-à-dire que dans le texte de Nietzsche, on entend bien cette idée de puissance et d'activité. Dans l'extrait du film de Spielberg, on entend bien cette idée de pouvoir. Et il y a en creux cette idée de faire l'histoire. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est... c'est-à-dire que d'un côté, on a Amon Goethe qui, arbitrairement, va tuer des juifs, mais en même temps applique le sens de l'histoire qu'on lui a dessiné, d'ailleurs le projet de la solution finale. Ça n'est qu'un exécutant, mais de manière complètement absurde. Et puis, il y a de l'autre, Schindler, qui rentre parfaitement dans le rang, et ça, c'est intéressant, qui est complètement conforme, qui va offrir des cadeaux, il y aura des pots de vin, il va rentrer complètement dans ce moule de ces gens, de ce nazisme, en gros, il va leur plaire. Et en même temps, c'est de cette manière-là qu'il va lutter contre ça, en fait, qu'il va peut-être appliquer un pouvoir beaucoup plus en creux que ce qu'il dit, en fait, dans l'extrait.
Oui, c'est très juste. Alors, cette thématique de faire l'histoire, elle est présente dans le film. Il faut savoir que Hitler lui-même a employé la formule, pensait que c'était au peuple allemand de faire l'histoire à travers lui, le leader. Et effectivement, Amon Goethe s'inscrit dans cette tendance. Il est chargé de liquider, en mars 43, le ghetto de Cracovie. Et il y a un discours qui fait... avant de lâcher ses hommes et les chiens, en disant « Aujourd'hui, c'est un jour historique. Depuis 6 siècles, les Juifs sont à Cracovie et nous allons faire comme si, nous allons détruire cette histoire et faire en sorte que cette histoire ne soit plus qu'une rumeur. » Donc pour lui, faire l'histoire, hein, c'est détruire ce passé, c'est liquider ce ghetto pour mettre les Juifs dans le camp de travail qu'il va diriger ensuite à côté de Cracovie. Et l'attitude de Schindler, c'est l'attitude de l'individu qui va être à contre-courant de l'histoire, qui petit à petit va se mettre à résister, à refuser la logique de l'extermination, bien qu'il fasse lui-même partie qu'il soit membre du parti nazi. Et donc on a la figure à la fois de l'individu qui fait l'histoire de façon négative, destructrice, avec la Shoah, et de l'autre, la figure de l'individu qui va résister avec une évolution progressive et qui va tenter d'arracher des juifs, 1100 quand même, à la machinerie nazie. Au départ, simplement en faisant en sorte que des juifs puissent travailler dans ces usines afin de ne pas être envoyés à Auschwitz et exterminés.
Et vous venez de dire détruire l'histoire, c'est très intéressant parce que c'est précisément aussi l'entreprise de Spielberg que il fait beaucoup de films historiques sur un registre plus ou moins léger. Même dans Indiana Jones, d'ailleurs, il représente le parti nazi. Et effectivement, dans cette idée de montrer l'histoire, il y a aussi l'idée de ne pas l'oublier, mais aussi l'idée de la raconter. C'est-à-dire que il va se servir de l'histoire comme d'une matière qu'il va travailler, comme d'un ressort dramatique qui peut aussi parfois desservir en fait le propos historique lui-même, qui peut lui-même donner, c'est-à-dire que Schindler devient par exemple un héros historique grâce à Spielberg lui-même, c'est-à-dire que Lincoln l'était déjà, mais on en parlera après, mais Ryan, le soldat Ryan devient une sorte de héros anonyme de l'histoire aussi.
Oui, alors c'est tout le problème de la représentation de l'histoire au cinéma. Parce que, au fond, il y a différentes conceptions de l'histoire, hein, qui sont en concurrence. On peut dire que c'est le règne du chaos ou du hasard. On peut dire que c'est le règne de la providence, mais après Auschwitz, cette conception est problématique. Vous avez aussi la vision déterministe, avec le thème de l'ironie de l'histoire, à savoir que les acteurs font le contraire de ce qu'ils veulent faire. Et puis, vous avez cette conception pratique de l'histoire qui dit que des individus, qui souvent d'ailleurs ont la figure du héros, font l'histoire, soit en étant dans le courant dominant, soit en étant en figure de résistance. Bon. Et c'est vrai que d'un point de vue cinématographique, surtout que Spielberg fait quand même un cinéma aussi de divertissement, c'est plus intéressant de montrer des intrigues avec des individus qui deviennent des héros ou qui sont déjà des héros comme Lincoln. Donc, il y a une sorte de prisme cinématographique de la fiction qui va valoriser cette conception de l'histoire basée sur des individus, tout en néanmoins s'ancrant sur des faits réels. C'est ça que je trouve intéressant dans les films historiques de Spielberg. Il part de faits réels, mais dans le cas de la Shoah, en fait, au fond, c'est très dur de filmer la Shoah. Et d'ailleurs, Lanzmann lui a reproché, on fait pas de fiction sur la Shoah, c'est la position de Lanzmann. Spielberg, lui, va montrer, effectivement, un héros positif de la Shoah, au sens de quelqu'un qui a résisté, un Allemand qui a sauvé des Juifs. Et à ce moment-là, on peut construire une intrigue, on peut faire, finalement, une histoire qui est un mélange de faits réels et de fiction, d'ailleurs, parce que il rajoute évidemment beaucoup de fiction. Et donc, c'est cette histoire-là qu'il a envie de nous raconter. C'est cette histoire qui colle le mieux au cinéma, avec des formes de happy end, il faut dire, puisqu'à la fin, les Juifs sont sauvés, avec l'idée quand même que beaucoup de Juifs sont morts. Mais vous prenez Lincoln, à la fin, l'amendement est passé, Ryan est sauvé, et même dans Amistad, les esclaves sont sauvés. Donc on a reproché à Spielberg de mettre en scène une vision un peu optimiste de l'histoire, même si Spielberg a le souci souvent de mettre un bémol. Bon, bah, Lincoln meurt, et dans Amistad, des esclaves sont sauvés, sont libérés, mais le héros revient en Afrique et finalement découvre que sa famille a disparu, sans doute vendue comme esclave. Et donc, on n'a pas un happy end de brut. Mais on a quand même une conception de l'histoire qui rentre bien dans un cadre donc cinématographique et qui met en valeur des individus acteurs de l'histoire.
Quelqu'un peut me dire ce qui est logique dans tout ça? Je veux dire, ça rime à quoi de risquer la vie de 8 de nos gars pour sauver celle d'un seul type?
20 degrés.
Quelqu'un veut répondre à ça?
Ryben. T'as pensé à la mère de ce pauvre imbécile?
Eh hey Doc, j'ai une mère moi aussi. Je veux dire, t'as une mère, le sergent a une mère. Je parie que même le capitaine a une mère. Enfin, peut-être pas le capitaine, mais tous les autres ont une mère.
On n'est pas là pour réfléchir, on est là pour agir et mourir.
Ça veut dire quoi cette connerie, caporal, hein? Qu'on est là pour mourir, c'est ça?
Pam voulait parler de notre devoir en tant que soldat.
Oui, capitaine.
Nous avons tous des ordres et nous devons les suivre, ce qui supplante tout le reste, y compris vos mères.
Oui, capitaine, merci, capitaine.
Écoutez, il va falloir les transporter, et le matériel, tout en Tchécoslovaquie, payer pour tout ça, hein, et bâtir un autre camp.
C'est vraiment insensé.
Écoutez, ah, quelque chose que vous ne me
dites
pas.
C'est bon pour moi. Je connais ces gens, ils me sont familiers, je n'aurais pas besoin de former. C'est bon pour vous, je vous dédommagerai.
Oui, c'est vrai.
Et c'est bon pour l'armée.
Oui, bien sûr. Mais c'est très irritant de ne pas comprendre.
Écoutez, tout ce que vous devez faire, c'est me dire ce que ça vaut pour vous. Ce qu'une personne vaut pour
non,
vous.
Non, non, non. Ce qu'elle vaut pour vous.
What's a person worth?
Non, 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 non. What's one worth to you?
All that pepper dog. Miller Pfefferberg and Stegel,
Powell
Stegel,
Doctor,
the children, all the children. That's it. You can finish that page.
Qu'est-ce que Goethe dit de tout ça? Vous lui avez juste dit combien vous vouliez de gens et il. Ne les achetez pas. Vous les achetez, vous les payez pour chaque nom que je
vous étiez encore mon employé, j'espère que vous m'en auriez dissuadé. Ça me coûte une fortune.
Cette liste, c'est le bien absolu. Cette liste, c'est la vie. Tout autour de ces marges, il y a le gouffre.
Christophe Bouton, qu'est-ce que représente une vie? C'est un petit peu la question qui est posée à travers ces deux extraits, à savoir d'un côté, il faut sauver le soldat Ryan, donc le film qui date de Steven Spielberg, évidemment, qui date de 1998, puis ensuite la liste de Schindler, où on entend Oscar Schindler faire avec Stern, son comptable, la liste des gens qu'il a envie de sauver. À la fin du film, on entendra d'ailleurs que plusieurs centaines de juifs revient à sauver l'humanité. Ce constat est beaucoup plus difficile à établir dans le soldat Ryan, où les soldats se demandent en fait pourquoi ils doivent mourir pour sauver seulement un soldat. Effectivement, qu'est-ce que vaut une vie et comment représenter la valeur d'une vie dès lors qu'on est au cinéma? Est-ce que représenter une vie revient à représenter l'ensemble des vies qui sont traversées par l'histoire?
Oui, je le pense. Au fond, il y a une obsession dans les films de Spielberg des héros devant sauver des vies. Hein, vous trouvez ça dans Le Soldat Ryan, dans la liste de Schindler, dans Amistad aussi, où il faut sauver 44 esclaves qui risquent la peine de mort. C'est présent aussi dans le dernier film, Le Pont aux espions, où un avocat doit sauver de la peine de mort un espion russe, puis ensuite un aviateur américain qui a été abattu en URSS. Donc, au fond, mon sentiment, c'est que dans ces films historiques, le message de Spielberg, c'est l'anti-Shoah. C'est-à-dire que la Shoah, c'est l'idée que les vies n'ont aucune valeur, la vie des Juifs, en l'occurrence, n'ont aucune valeur, que les individus ne sont que des numéros, qu'il faut les éliminer. Et dans ces films-là, ce qu'on voit, c'est la valorisation de la vie, chaque vie compte, et une réindividuation des personnages. D'où le fait que, dans la liste de Schindler, on entende le nom des Juifs, qu'on voit leur visage, et la phrase finale de Stern qui vient du Talmud, c'est « quiconque sauve une vie » sauve le monde tout entier. Donc, au fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque vie, quelle qu'elle soit, vaut une autre vie et doit être sauvée parce qu'elle est absolument précieuse. Et donc, on trouve ça, effectivement, dans la scène et dans l'intrigue du soldat Ryan, qui, d'ailleurs, s'inspire d'un fait réel. Hein. Aussi en ce sens que le film est historique. Il y a cette section qui cherche à sauver un soldat. Dans une guerre, normalement, un soldat, c'est un matricule, c'est un numéro, ça n'a pas d'importance. Là, si ce soldat a une importance, bon, parce que ses trois frères sont déjà morts, mais parce que, au fond, c'est une vie. Et finalement, les membres de la section s'interrogent sur la valeur de ce projet, parce qu'ils risquent leur vie, certains vont mourir. Et ce que je trouve intéressant dans l'extrait que vous avez passé, c'est la référence à la mère. Il a une mère. Et ça, ça a l'air d'être un détail, mais c'est très important chez Spielberg, c'est la question de la filiation et de l'ascendance. C'est-à-dire que les personnages sont décrits petit à petit comme ayant une épaisseur historique. Donc vous avez la grande histoire qui est représentée, la grande histoire avec la grande H, comme dirait Pérec, hein. Et vous avez la petite histoire des individus. On apprend au fur et à mesure dans Soldat Ryan quelle est l'histoire de chacun des membres de la section, quelle est l'histoire du capitaine. On apprend finalement qu'il est maître d'école. On va découvrir l'histoire aussi de Ryan quand il va entrer en contact avec la section. Donc, cette histoire, c'est la vie de l'individu, c'est le fait qu'il a des parents, c'est aussi dans certains films le fait qu'il y a une descendance. Et donc, il y a une épaisseur temporelle des individus qui est représentée dans les films de Spielberg. Et d'ailleurs, la clé de ça, à mon avis, c'est une réflexion de John Quincy Adams dans Amistad, qui dit que si vous voulez gagner le procès, il faut raconter la meilleure histoire. Et ce que fait, donc, en l'occurrence, la meilleure histoire concernant ces fameux esclaves qui risquent leur vie. Et finalement, ce que fait Spielberg dans ses films, c'est raconter les histoires de ces personnages en amont, en aval, en insistant sur l'importance de la descendance. Alors, dans le cas de la liste de Schindler, le fait de sauver ces 1100 juifs en faisant une liste de noms, et d'ailleurs il les nomme un par un, c'est pas, il demande pas à Stern sauvez-moi 1000 juifs,
il s'en souvient,
il les connaît. Il y a un travail de réindividuation des personnages. On connaît une partie de la vie de ces juifs, parce que d'ailleurs les films de Spielberg sont longs aussi pour ça. Il prend le temps de nous expliquer ce qu'ils font, d'où ils viennent, quels sont leurs amis, s'ils ont des enfants. Et finalement, à la fin du film, on voit les descendants, qui sont plusieurs milliers, qui reviennent sur la tombe de Spielberg, la tombe d'Oscar Schindler. Et finalement, donc, on a toute cette thématique des ancêtres, des descendants qui donnent à chaque personnage une épaisseur historique au-delà de sa propre génération.
Ce qui se joue aussi, c'est une démocratisation de l'histoire. C'est-à-dire qu'on est aussi dans une représentation de l'histoire et dans une conception de l'histoire qui est propre au XXe siècle. C'est-à-dire que ce n'est plus... on est peut-être moins dans l'histoire monumentale, mais d'ailleurs, c'est une question qui se pose. Est-ce que Spielberg ne la rend pas monumentale, en fait, cette histoire des individus? Mais on est moins dans l'histoire monumentale qui s'abat sur nous. C'est-à-dire qu'elle est, faite, elle est traversée de visages, de détails. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans la liste de Schindler, on voit tous ces visages, on voit aussi ce qui fait prendre conscience en fait à Schindler de l'horreur nazie, c'est le film est en noir et blanc, mais il y a ce manteau rouge d'une petite fille en fait qui donc apparaît comme rouge à l'écran, qu'il suit et qu'il retrouve après, donc au moment où il y a le ghetto de Cracovie est complètement évacué, et au moment où les cadavres sont incinérés, il revoit toujours ce manteau rouge comme si c'était une prise de conscience. Donc effectivement, là, l'histoire prend une dimension individuelle qui passe forcément par des incarnations, par des noms, par le fait de nommer, de montrer, et effectivement de même de coloriser en fait les choses. Et ça, c'est la représentation de Spielberg de l'histoire.
Oui, oui, tout à fait. Alors, je pense qu'il y a deux visions qui se complètent. Il y a la vision monumentale à la Nietzsche du grand homme. C'est le cas de Lincoln. Et moi, quand j'ai revu Lincoln, j'ai eu l'impression qu'il avait pris la statue de Lincoln à Washington et qu'il l'avait mis dans le film, tellement Lincoln, c'est le grand homme jusqu'au bout des ongles. Dans tous ses gestes, dans tout son comportement, il est déterminé, il fait l'histoire. Les autres à côté semblent relativement plalots ou médiocre, même s'il est aidé, bien sûr. Et donc là, on a vraiment la figure de l'histoire monumentale, sympathique et positive d'ailleurs, mais qui est peut-être un peu forcée, puisque vous savez qu'Hegel dit qu'il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre, parce que le grand homme n'est pas un grand homme, mais parce que le valet de chambre est un valet de chambre. Dans Lincoln, même le valet de chambre trouve que Lincoln est un grand homme. Donc il a forcé beaucoup sur la figure du grand homme. En revanche, dans d'autres films, on a des héros ordinaires. Alors c'est typiquement le cas de Tom Hanks en tant que capitaine de la section.
Le capitaine Miller, ouais.
Voilà, le capitaine Miller dans le Soldat Ryan. C'est le cas de l'avocat dans Amistad, qui est malin, mais qui n'a pas la figure du grand homme. C'est le cas aussi de Sinké dans Amistad, qui est en figure de héros ordinaire, qui résiste. Et l'avocat dans Le Pont aux Espions, c'est aussi un Américain ordinaire, toujours joué par Tom Hanks, qui est typiquement l'homme ordinaire en tant que héros dans le cinéma hollywoodien. Et donc on a les deux visions. Et Schindler, il passe du statut vraiment d'homme ordinaire. On est un peu dans ce qu'on pourrait appeler la banalité du bien, un écho à Arendt, c'est-à-dire Arendt parle d'Ashman, banalité du mal, bon, même si ça a été assez controversé. Le mal commis est horrible, mais l'homme est relativement banal. Et bien, avec Schindler, on aurait la banalité du bien, au sens où le bien qui fait est quand même extraordinaire, mais l'homme lui-même, au départ, est relativement banal. Il a pas la stature du grand homme qu'on peut trouver dans un film comme Lincoln. Et pourtant, il fait l'histoire aussi à sa manière.
Take a lesson from old Abe Lincoln in times of stormy weather. Take a lesson from old Abe Lincoln. Let's country and one banner to wave, one union of brave brothers, when no brothers and slave others, we're still marching along with Lincoln, with one banner to wave. This union was born in
Il est 10h30, vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Semaine spéciale à l'occasion du 69e festival de Cannes qui s'ouvre ce soir même. Semaine Steven Spielberg où aujourd'hui c'est de l'histoire comme matière, ressort dramatique et véhicule symbolique, de la liste de Schindler à Minority Report en passant par Lincoln qu'il est question, en compagnie de Christophe Bouton, professeur de philosophie à l'université Montaigne de Bordeaux, auteur de Faire l'histoire, de la Révolution française au printemps arabe, c'est disponible aux éditions du Cerf. Et du temps de l'urgence est disponible aux éditions du Bordelot.
Leave the Constitution alone.
The peace commissioners appear today, or
state
worse,
by state,
on the morning.
I can't listen to this anymore. I can't accomplish a goddamn thing of any human meaning or worth until we cure ourselves of slavery and end this pestilential war.
Cet amendement est la guérison. Nous sommes attendus sur la scène mondiale, maintenant, maintenant, avec le sort de la dignité humaine entre nos mains. Beaucoup de sang a coulé pour nous offrir ce moment, maintenant, maintenant, maintenant. Et vous rouspétez et interpellez, et vous vous défilez comme les petits combinards qui font de la politique par intérêt. Regardez ce qui est devant vous. Regardez-le ici et maintenant. C'est la chose la plus difficile, oui, mais la seule chose qui compte. L'abolition de l'esclavage par un acte constitutionnel règle le sort pour tous les temps à venir. Deux votes font encore obstacle. Ces votes doivent absolument être obtenus.
On a besoin de deux oui. Trois abstentions ou quatre oui et une abstention. Et l'amendement passera.
Vous avez une nuit, un jour et une nuit et plusieurs heures qui vous seront très utiles. Alors foutez-moi le camp et obtenez-les.
Oui. Mais comment ?
Je suis le président des États-Unis d'Amérique, doté d'immenses pouvoirs. Vous allez me procurer ces votes.
Ce sont les grands hommes historiques qui saisissent l'universel supérieur et font de lui leur but. Ce sont eux qui réalisent ce but qui correspond au concept supérieur de l'esprit. C'est pourquoi on doit les nommer des héros. Ils n'ont pas puisé leur fin et leur vocation dans le cours des choses consacrées par le système paisible et ordonné du régime. Leur justification n'est pas dans l'ordre existant, mais ils la tirent d'une autre source. C'est l'esprit caché, encore souterrain, qui n'est pas encore parvenu à une existence actuelle, mais qui frappe contre le monde actuel parce qu'il le tient pour une écorce qui ne convient pas au noyau qu'elle porte. L'universel qu'ils ont accompli, ils l'ont puisé en eux-mêmes, mais ils ne l'ont pas inventé. Il existait de toute éternité, mais il a été réalisé par eux et honoré en eux. Parce qu'ils ont puisé en eux-mêmes, en une source qui n'a pas encore surgi à la surface, ils ont l'air de s'appuyer uniquement sur leurs propres forces. Et la nouvelle situation du monde qu'ils créent et les actes qu'ils accomplissent sont en apparence un simple produit de leurs intérêts et de leur œuvre. Mais si le droit est de leur côté parce qu'ils sont lucides, ils savent quelle est la vérité de leur monde et de leur temps. Ils connaissent le concept, c'est-à-dire l'universel, qui est en train de se produire et qui s'imposera à la prochaine étape. Christophe Bouton, alors Lincoln, on a entendu un extrait du film de Spielberg, donc c'est le grand homme par excellence, celui dont Hegel dit dans l'extrait que j'ai lu de la raison dans l'histoire, qu'il a l'air de s'appuyer sur sa propre force, qui accomplit en apparence un simple produit de ses intérêts et de son œuvre, mais qui en fait réalise ce but qui correspond au concept supérieur de l'esprit. Alors en fait, Lincoln serait peut-être un grand homme, mais finalement il serait aussi le jouet de l'histoire, ce jouet inconscient de l'histoire. Il n'agirait pas par lui-même, il agirait suivant effectivement cette raison qui le déterminerait. En cela, Lincoln illustre parfaitement en fait l'ambivalence de ce concept de héros chez Hegel, c'est-à-dire il est déterminé à la fois, il est déterminé par sa volonté, mais il est aussi déterminé par l'histoire.
Oui, il y a une ambiguïté de la conception hegelienne du grand homme, parce que d'un côté, il est déterminé par une situation historique, par des passions, la recherche de la gloire, et il finalement accomplit, parfois malgré lui, le destin de la raison. C'est le thème qui en fait se trouve assez peu dans les textes de Hegel de la ruse de la raison, mais comme si finalement le grand homme était un jouet inconscient de ce que Hegel appelle l'esprit du monde. Et d'un autre côté, il y a une vision du grand homme plus positive, qui ressemble moins à cette notion d'instrument, qui est l'idée d'un individu qui a une lucidité exceptionnelle, c'est-à-dire qui comprend la situation historique qui est la sienne, qui comprend les besoins de son temps, de son époque, et qui se met au service d'une cause qui est pour Hegel l'idée de liberté. Hein. L'histoire pour Hegel, c'est le progrès dans la conscience que les peuples prennent de leur liberté. Donc la position de Lincoln en lutte contre l'esclavage s'inscrit tout à fait dans cette orientation. Et je pense que Spielberg tire Lincoln du côté de la deuxième version, qui renvoie d'ailleurs à une tradition américaine ancienne. Vous savez, dans la bibliothèque du Congrès, il y a une phrase de Carlyle qui dit « L'histoire universelle se résume à la biographie des grands hommes ». Donc, aux États-Unis, il y a une tradition de culte des grands présidents, des grands individus historiques, à l'intérieur de laquelle Spielberg s'inscrit. Et du coup, son personnage, Lincoln, est un personnage qui a une grande intelligence politique et qui a une grande lucidité, qui n'est pas le jouet de passions comme la recherche de la gloire. Il est présenté plutôt comme, ou des honneurs, comme quelqu'un qui veut mettre fin à l'esclavage, hein, qui présente dans l'extrait comme une maladie. Et cette scène est très forte parce que c'est là où on voit la détermination de Lincoln. C'est-à-dire que les gens autour de lui commencent à tergiverser, à reculer. Lui, il veut que le 13e amendement soit voté avant la guerre, avant la fin de la guerre, parce qu'une fois que la guerre de sécession sera finie, ça sera beaucoup plus dur de le faire passer. Pourquoi ? Parce qu'il faut une majorité des deux tiers à la Chambre des représentants et que beaucoup de représentants, même s'ils sont contre l'esclavage, ont peur de voter la fin de l'esclavage parce que ça pose la question du vote des Noirs et même après, plus grave pour certains, du vote des femmes. Donc, il a une espèce de kairos, c'est pour ça qu'il dit ici, maintenant, la guerre est en train de se finir, et donc il faut absolument le faire passer.
Il accomplit à la fois une œuvre et en même temps, il se saisit de l'occasion, c'est-à-dire qu'il y a toute une stratégie, en fait, du moment, de l'instant chez Lincoln, qui d'ailleurs, l'humanise un petit peu, c'est-à-dire que c'est la vie des grands hommes, mais c'est un homme qu'on entend en colère, qu'on entend douter, qu'on entend blesser. Il y a quelque chose de l'ordre des coulisses de l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire n'est plus cette force non plus qui s'abat sur les hommes, ni d'ailleurs cette raison. Ce concept supérieur de la raison dont parle Hegel, c'est aussi une sorte de fragilité même en fait de la construction historique.
Oui, c'est très juste. C'est-à-dire que la différence avec Hegel, c'est que on sent toute la contingence du processus. Hein. C'est-à-dire que il faut trouver 20 voix au départ pour la Chambre des représentants, pour avoir cette majorité des deux tiers. Et donc là, Lincoln va descendre de son piédestal de grand homme et va devenir un peu roublard. C'est-à-dire qu'il va acheter les voix qui manquent, non pas par de l'argent, parce que ça serait illégal, mais par des postes. Comme il a été réélu président, il dispose de postes qu'il va distribuer, donc il va envoyer ses émissaires pour distribuer des postes en échange des voix. Donc on voit le côté pragmatique du personnage, on voit la cuisine des coulisses de l'histoire, et ça contrebalance ce que je disais tout à l'heure, de la figure du grand homme jusqu'au bout des ongles, qui suscite la fascination de ceux qui l'entourent. Là, quand même, Spielberg montre un peu l'autre facette, l'homme ordinaire qui est très déterminé, mais qui est pragmatique et qui veut à tout prix avoir ses voix pour arriver à ses fins, avec une scène très forte d'hésitation. Car le problème, c'est qu'il y a des émissaires de paix qui veulent venir à Washington et sont prêts à signer la paix pour justement empêcher le vote de ce 13e amendement. Et Lincoln est très embêté parce que cette guerre fait des morts et il a un dilemme. Soit il fait la paix, il économise des vies, mais c'est la fin du 13e amendement, soit il temporise. Et donc, finalement, on le voit envoyer un télégramme disant de faire venir les émissaires à Washington. Et à ce moment-là, serait remis en cause pour des années ce vote d'abolition de l'esclavage. Et finalement, au dernier moment, après une nuit d'hésitation, de dilemme, il dit au télégraphiste « Non, ne l'envoyez pas, on va faire attendre le bateau en dehors de Washington. » Et il choisit l'autre option, prolonger un peu la guerre, mais faire le vote des représentants, qui finalement a un succès, réussi à deux voix près. Donc là, c'est la contingence de l'histoire. Ça aurait pu échouer.
Mais est-ce qu'on peut pas aussi faire l'objection, si on est un petit peu, un petit peu taquin, à Spielberg, en fait, de montrer les grands hommes dans leur dimension un petit peu ordinaire. Finalement, ça vise à les humaniser. C'est-à-dire que même ça, en fait, on a l'impression que c'est un ressort dramatique. Lincoln qui doute, finalement, ça contribue à en faire un grand personnage. Il s'est même battu contre lui-même. Et du coup, c'est peut-être là où on tombe aussi dans la caricature, parce que non, effectivement, les soldats dans le soldat Ryan, qu'on a entendu dans l'extrait, disent « nous agissons et nous mourrons », ils disent « agir », ils disent « exécuter », ils ne disent pas « faire ». Et il ne faut pas mettre, effectivement, il y a quand même malgré tout une hiérarchie qu'on est obligé de faire entre ces individus. Et ça, c'est un petit peu le drame de cette représentation aussi cinématographique, c'est-à-dire de dire « alors voilà, il y a des individus qui agissent, c'est pour le bien de l'histoire qui les dépasse, et puis il y en a d'autres, et ben c'est eux qui font le bien de l'histoire ».
Oui, alors... Il y a différentes figures, parce que dans le cas de Lincoln, on a un personnage effectivement qui parfois est humanisé parce qu'il est torturé, mais ça contribue à sa grandeur, c'est vrai. Et les facettes négatives du personnage, qui ont dû probablement exister, sont très réduites. Peut-être quand il se dispute avec sa femme. Parce que, à un moment donné, il a voulu faire interner sa femme qui se remettait pas du deuil de leur enfant. Là, on voit le personnage sous un jour un peu négatif. Maintenant, je reviens au film Il faut sauver le soldat Ryan. Même les individus ordinaires soumis à des ordres ont des marges de manœuvre. Parce qu'à un moment donné, il s'agit de tuer ou non un prisonnier allemand. Et Miller finalement décide de le relâcher. C'est une décision libre. Il avait le pouvoir de le faire ou non, mais justement, il choisit la vie, il épargne. On a cette figure du personnage qui a le pouvoir de tuer, mais qui laisse vivre. Et d'autre part, à un moment donné, il dit à ses hommes, je comprends très bien si vous ne voulez pas continuer, vous pouvez rentrer chez vous, je vous ferai une lettre pour vous libérer, pour justifier. Moi, je continue. Et donc, il laisse le choix à ses soldats qui, finalement, décident de continuer. Hein, donc, même, je dirais, au ras des événements, dans les contraintes les plus lourdes, il y a une petite marge de manœuvre qui n'est pas négligeable.
He's here.
Anderson, leave. You have a choice.
Vous avez le choix. Partez vite. Partez tout de suite.
Je peux pas. Je dois savoir. Je dois découvrir ce qui va m'arriver.
Je vous en prie.
Agatha, je ne vais pas tuer cet homme. Je ne le connais même pas. Quelle chambre, accro ?
La 1006.
On y va. Ces 6 dernières années, je n'ai pensé qu'à 2 choses. La première, c'est à quoi mon fils ressemblerait s'il était toujours vivant aujourd'hui. Est-ce que je le reconnaîtrais si jamais je le rencontrais dans la rue? Et la seconde, qu'est-ce que je ferais à l'homme qui l'a enlevé? Vous avez raison. Je ne me fais pas piéger.
Il faut que vous me rameniez.
Non. Vous l'avez dit vous-même. Il n'y a pas de rapport minoritaire, je n'ai pas un autre avenir. Oh oui, je vais tuer cet homme.
Vous avez le choix. Les autres n'ont jamais vu leur avenir. Vous, vous avez le choix.
Léo Crowe ? Mais qui êtes-vous ?
Christophe Bouton, vous avez parlé de la marge de manœuvre qui était donnée aux individus, même aux rats de l'histoire, on va dire, au plus ordinaire, le plus ordinaire qui soit. C'est aussi ce qui se passe avec John Anderton, c'est dans Minority Report, c'est un film qui date de 2002, donc toujours de Steven Spielberg. Alors là, on n'est plus dans le passé, on n'est plus dans l'histoire monumentale, on est dans le futur, c'est un film de science-fiction. L'histoire se situe en 2054, à une époque de l'hypersécurité, de la surveillance totale. C'est c'est-à-dire que il y a une unité dite de pré-crime qui permet d'arrêter les coupables avant même qu'ils aient commis leur crime. Et John Underton, qui travaille dans cette unité, donc Tom Cruise, qu'on a entendu dans l'extrait, a vu qu'il allait commettre un crime et du coup tente de savoir qui est la personne qu'il est censé tuer, est-ce qu'il va le faire ou pas. Et effectivement, comme lui dit Agatha, qui est une précogue dans le film, qui elle en fait a ces prévisions-là, a ces prédictions-là, permet de voir l'avenir, lui dit c'est précisément parce que tu connais l'avenir que tu as le choix. Et effectivement, on est dans ce paradoxe-là qui est que dès qu'on sait la manière dont les événements vont se dérouler, loin de nier l'histoire, en fait on peut toujours encore agir sur elle.
C'est un film, Minority Report, qui est très, très ambigu, avec beaucoup de thématiques. L'une des thématiques, cette question, est-ce qu'on peut changer l'avenir ? À partir du moment où on le connaît. Alors, il y a une réponse ambiguë, parce que, normalement, dans l'unité de pré-crime, eh bien, à partir du moment où on a repéré qu'un crime va se commettre, soit parce qu'il y a préméditation, soit parce que
Un crime passionnel
est en train de se préparer, les précogs le prévoient, et donc l'unité de pré-crime arrive sur les lieux et empêche le crime. Donc finalement, l'avenir a été changé de ce point de vue-là. Alors, le fait de connaître permet de changer. Dans le cas du héros joué par Tom Cruise, effectivement, il va se dire il est prévu par une des trois précoques qui va commettre un crime. Donc du coup, lui-même se trouve être en situation de fugitif. À un moment donné, il veut savoir qui il va tuer, pourquoi, et en même temps, il essaye de résister à son propre futur, et il échoue parce que finalement il tire sur le meurtrier de son fils.
Donc dans ce cas-là, présumé de son fils.
Oui, le meurtrier est présumé. Donc il y a une sorte de tension entre liberté et prévision de l'avenir. Mais je pense que l'une des dimensions du film, quand même, qui son cadre général, c'est la dimension politique. C'est-à-dire que pour moi, ce film, c'est une espèce de variation sur 1984. C'est le thème de Big Brother is watching you, parce que on peut prévoir l'avenir.
C'est qu'on ne regarde même pas les individus en train d'agir. On sait déjà ce qu'ils vont faire dans l'avenir.
Voilà. C'est-à-dire que le pouvoir de Big Brother va maintenant jusqu'au futur des individus, et du coup, les individus potentiellement criminels sont arrêtés alors qu'ils n'ont rien fait au bout du compte.
Et donc, c'est leur intention, en fait.
Qui est
sanctionnée.
C'est une sorte de loi des suspects. Et finalement, il y a dans ce film une critique de ce que peut devenir une société d'information extrême. Et je pense qu'on est après le 11 septembre, après les lois antiterroristes
en 2002.
Et donc, il y a un peu un message. Attention, une démocratie qui devient une démocratie de contrôle des individus par les informations, par Internet, par tous les moyens qu'on a maintenant d'écouter les individus, etc. Donc une société de contrôle, c'est une société où il n'y a plus d'imprévisibilité au sens de Arendt que vous évoquiez au début, c'est une société qui vire à une forme de totalitarisme.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce film, John Underton, donc au début, on le voit procéder. Donc, il a les images des précogs qui prévoient donc l'avenir et les crimes. Et en fait, il manipule les images comme un chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'il les agence d'une certaine manière, il les fait s'emboîter, il les retourne, il fait des zooms, etc. On dirait un petit peu un chef d'orchestre, une chorégraphie incroyable. Et effectivement, dans ce cas-là, il n'est pas seulement interprète des images qu'il voit, il est carrément créateur en fait de la situation qui va se dérouler, et on se demande là si on n'est pas dans l'envers du fer dont on parlait, c'est-à-dire que on disait que les hommes font l'histoire, ils ne font pas que l'agir, ils ne sont pas seulement agis ou jouer de l'histoire, ils la font aussi, mais là à force de vouloir faire l'histoire, de vouloir la construire, finalement on défait le sens même de l'histoire dans sa contingence, c'est-à-dire qu'on perd cette idée même d'accident, de contingence, de surprise, d'inattendu et d'imprévisibilité.
Il y a un contrôle des individus, une recherche effectivement à partir de ces images. En fait, ce que cherche le personnage, c'est des indices, des moyens donc de mettre une intrigue de prévision de crime en place. Je pense aussi que cette scène est une mise en abîme du cinéma. C'est-à-dire, qu'est-ce que fait le cinéma? Il joue avec des images, il invente des histoires, et finalement, il nous montre quelque chose, avec, c'est le risque de la fiction, qui n'est pas forcément la réalité aussi. C'est-à-dire que ce qui m'a frappé dans ce film, c'est une obsession sur le regard, les yeux. À un moment donné, le personnage se fait changer les yeux, oui. Parce que les yeux sont des moyens de se faire repérer.
De se faire identifier, effectivement.
On marche dans la rue, il y a des publicités qui vous reconnaissent, qui renvoient des images. Donc on est dans un monde d'images, avec l'idée que finalement ces images, cet excès d'images finalement, ce qu'on voit n'est pas la réalité. Et donc c'est un peu une mise en abîme du caractère fictif du cinéma et peut-être du danger aussi d'une société des images.
Ou alors on est plutôt dans l'idée d'une sur-identification, c'est-à-dire qu'on est plutôt non pas dans la fiction mais dans la sur-réalité, c'est-à-dire que on est en totale transparence, c'est-à-dire que quand on arrive dans un magasin, on dit bonjour madame je ne sais pas comment, vous avez acheté des bas la dernière fois, comment est-ce que ce produit vous a plu? Donc on est vraiment dans la sur-réalité de comment on a été, on doit dire comment on se sent sans cesse. Et effectivement, on est aussi à l'envers de ce que fait Spielberg dans d'autres films, quand il nomme Ryan, quand il nomme Schindler, quand il nomme Lincoln, et d'ailleurs Minority Report, il y a cette idée de minoritaire, c'est-à-dire qu'il ne va pas nommer, au contraire, il va faire un petit peu un plaidoyer pour l'anonymat, en fait, des individus.
Oui, bah c'est dans une société de contrôle, effectivement, on finit par repérer les individus. Dès que on entre dans un magasin, grâce à cette lecture optique, l'individu est repéré, son histoire est connue. Donc là, il y a un excès d'individuation, mais qui est fait aussi à des fins de marketing. Et là, Spielberg pointe des choses qu'on connaît bien aujourd'hui, comment nos comportements d'achat, etc., sont repérés par des moteurs de recherche, des logiciels, etc. Donc pour moi, c'est un film... Il y a chez Spielberg, il y a un éloge de la démocratie très fort, qui est typiquement américain. Et ce film, c'est aussi une critique de la société de contrôle dans sa dimension politique ou marchande, qui finit par détruire de l'intérieur la démocratie.
Yet somehow our love doesn't die. What do we do with this history now?
Do we go in like a surgeon?
Do we go in like a bomb? How do we dismantle the sorrow and rage and pick up our stars off the ground? Those girls and boys who died and lived for us so we could speak and love and be with you now.
You do see a pattern, right?
Et merci beaucoup Christophe Bouton d'être venu nous parler de l'histoire chez Spielberg. Donc je rappelle que vous êtes l'auteur de Faire l'histoire, de la Révolution française au printemps arabe, c'est aux éditions du Cerf. Et puis aussi Le temps de l'urgence, c'est disponible aux éditions du Bord de l'eau. Et quant à nous, nous nous retrouvons demain pour la suite et la fin de cette semaine consacrée à Steven Spielberg. Et après l'aventure, l'enfance et l'histoire, eh bien ce sera les monstres des Dents de la Mer, à Schindler encore, dont nous parlerons entre la bête et l'homme, lequel est le monstre. Et quant à vous, chers auditeurs, pour réécouter cette émission, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous pourrez non seulement l'écouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster et y trouver toutes les références bibliographiques et musicales de chaque émission. Et puis rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins où toute l'équipe met en ligne l'émission du jour.